Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment accompagner son enfant souffrant de dépendance? Un texte de Catherine Anfield, paru le 11 août 2024 dans la presse. Une lectrice qui a demandé l'anonymat demande: mon fils aîné de 25 ans a un problème de dépendance à l'alcool depuis 6 ou 7 ans. Il souhaite s'en sortir seul. Il n'est pas rendu à accepter une cure, mais son problème a des répercussions sur toute la famille, dont son plus jeune frère, qui a une adolescence normale et équilibrée, et aux yeux de qui on ne veut pas non plus diaboliser l'alcool. Comment accompagner l'aîné, par ailleurs magnifique, à travers ce cauchemar, sans se perdre soi-même? De l'aide pour soi. Quand on est un parent, on s'inquiète tellement. C'est facile de s'enliser avec son enfant. Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la maison Jean Lapointe, offrirait ce premier conseil aux parents qui vivent cette situation. Prenez d'abord soin de vous. Des organismes qui offrent du soutien aux proches, il en existe. Et ils sont très aidants, dit-elle. Ça permet de sortir de l'isolement, de la honte, de la culpabilité. Héloïse Rivoire, intervenante psychosociale chez Arborescence, un organisme qui accompagne les proches de personnes ayant un enjeu de santé mentale, est bien d'accord. Quand on s'aide soi-même, on devient plus solide pour aider l'autre. Et ça démontre à son enfant que c'est correct d'aller chercher de l'aide, dit-elle. On continue à s'inquiéter, on continue à aimer son enfant, mais il faut apprendre à pratiquer un peu de détachement, estime Anne-Élisabeth Lapointe. S'inquiéter toute la nuit n'aura aucun impact positif, ni sur son enfant, ni sur soi. Ouvrir le dialogue. La jeunesse est associée aux amis, aux amours, aux clubs, aux parties. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est plus? Quand faut-il s'inquiéter? Quand on perçoit un changement chez son enfant, répondent nos deux intervenantes. Il s'absente du travail ou ses notes diminuent. Il multiplie les sorties ou devient évitant. Il adopte des comportements à risque, dort moins bien. On le sent quand il se passe quelque chose. Je pense que ça ne ment pas, dit Madame Lapointe. L'idée est ensuite d'ouvrir le dialogue avec lui à un moment où il n'a pas bu. Mieux vaut le faire calmement, sans le culpabiliser ni lui faire la morale. Voici ce qu'on a remarqué, voici ce qui nous inquiète. Quand on a une attitude de non-jugement, dit Madame Rivoire, ça peut mettre le jeune en confiance, il sait qu'il ne sera pas puni s'il s'ouvre à vous. Et si le jeune s'ouvre, on peut valider ce qu'il ressent, ses inquiétudes, ses peurs. Et on peut lui dire que, s'il souhaite de l'aide, on est là pour l'aider à en trouver, poursuit Madame Rivoire. Une personne ayant un problème avec l'alcool peut essayer de s'en sortir seule, certes. Mais une béquille est toujours aidante, souligne Anne-Élisabeth Lapointe. Il y a bien d'autres choses à faire avant d'aller en cure, qu'on se le dise, dit-elle. Tu peux consulter un psychologue, faire des groupes d'entraide, entreprendre un traitement à distance ou à l'externe, juste réduire ta consommation. Drogue, aide et références peut suggérer des services partout au Québec, tant pour le jeune que pour le parent, indique Madame Lapointe. Même s'il ferme la porte à la discussion, le jeune saura que celle de son parent est ouverte. Faut-il lui en reparler plus tard? Oui, estime Anne-Élisabeth Lapointe. Héloïse Rivoire conseille néanmoins de ne pas uniquement focaliser sur le problème, parce que le jeune risque de se sentir coupable et de se replier sur lui-même. Maintenir des moments agréables avec lui, ça permet de garder un lien, dit-elle. établir ses limites. Chez Arborescence, des parents de jeunes souffrant d'enjeux de santé mentale, souvent accompagnés de consommation, arrivent complètement épuisés parce qu'ils n'ont pas établi leurs limites. Lorsque son enfant atteint l'âge où il aura l'occasion de consommer de l'alcool, tout parent aurait avantage à se positionner par rapport à l'alcool, estime Anne-Élisabeth Lapointe. Est-ce qu'on préfère que les parties aient lieu chez soi? Est-ce qu'on préfère que son enfant ne boive pas lorsqu'il sort? Après, il faut être capable de défendre et de maintenir sa position, souligne-t-elle. Si son ado ou son jeune adulte a développé un problème, établir des limites est aussi essentiel. Qu'est-ce qu'on juge inacceptable comme parent? Les textos? Les visites en état d'ébriété? Si on met des ultimatums, il faut être capable de tenir son bout, même si ça fait mal, dit Anne-Élisabeth Lapointe, qui convient que le parent a davantage de marge de manœuvre lorsque l'enfant habite encore à la maison. Faut-il donner de l'argent de poche? Aux yeux d'Héloïse Rivoire, cette décision appartient à chaque parent. Anne-Élisabeth Lapointe est plus critique envers l'idée. Si tu es toujours en train de sauver ton enfant, peu importe l'âge qu'il a, tu es toujours en train de lui donner de bonnes raisons de continuer. La fratrie. Notre lectrice évoque aussi sa crainte de diaboliser l'alcool devant son autre fils de 17 ans. Consommer de l'alcool ne signifie pas sombrer dans la dépendance. Au Québec, 83 % des jeunes de 18 à 24 ans ont pris de l'alcool dans la dernière année, alors que la dépendance aux drogues et à l'alcool toucherait 3,8 % de la population canadienne. On ne veut peut-être pas diaboliser l'alcool. Mais l'ado de 17 ans doit quand même être conscient de ce qui peut l'attendre, estime Anne-Élisabeth Lapointe, qui rappelle la dimension génétique de l'alcoolisme. Fille de deux parents alcooliques, Anne-Élisabeth Lapointe a eu cette discussion avec son fils au début de l'adolescence. Elle lui a expliqué que, statistiquement, il devait être conscient du bagage familial et qu'il avait tout intérêt à retarder le plus possible le jour où il goûterait à l'alcool. Héloïse Rivoire croit également qu'il faut ouvrir le dialogue avec la fratrie. Les enfants le sentent quand il se passe quelque chose avec l'un des leurs. J'encourage fortement d'avoir une conversation honnête sur ce qui se passe à la maison de façon appropriée à l'âge du jeune, conseille-t-elle. Et le parent, enfin, est le mieux placé pour donner l'exemple avec sa propre consommation d'alcool. À cette maman qui s'inquiète, Anne-Élisabeth Lapointe aimerait donner un message d'espoir. La beauté, c'est qu'il a juste 25 ans. Il a encore toute sa vie devant lui. C'était « Comment accompagner son enfant souffrant de dépendance », un texte de Catherine Anfield, paru le 11 août 2024 dans la presse.
Les poux gagneront toujours, un texte de Caitlin Gibson du Washington Post, paru le 13 août 2024 dans Le Devoir. Le courriel arrive un vendredi après-midi. L'objectif est une histoire d'horreur en trois mots. Poux au camp. Non, dis-je à voix haute, même si je suis seul. Je me remémore immédiatement 2023, lorsque mon enfant d'âge préscolaire a ramené des poux à la maison et que j'ai payé des centaines de dollars à un spécialiste de l'élimination des poux pour calmer ma panique. J'ai ensuite passé 14 jours à peigner consciencieusement les cheveux de mes enfants avec un peigne de qualité professionnelle, en examinant chaque particule de détritus du cuir chevelu et en réprimant des hauts de cœur. Cette fois-ci, heureusement, je n'ai vu aucune trace de bestiole lorsque j'ai anxieusement examiné la tête de ma fille. Mais beaucoup d'autres n'ont pas cette chance. Il suffit de prononcer le mot « poux » dans un groupe de parents pour savoir qui a connu ce fléau. Les visages se crispent, les bouches se tordent, les épaules se soulèvent dans un frisson de dégoût. C'est particulièrement le cas en ce moment, alors que l'été touche à sa fin et que les enfants migrent des camps d'été et des vacances familiales vers les salles de classe avec des couronnes d'autostoppeurs parasites à la clé. Nous sommes en pleine saison des poux et les poux semblent toujours arriver au moment où nous sommes le moins bien équipés pour y faire face. Si vous les avez affrontés ne serait-ce qu'une fois, il y a de fortes chances que vous ayez encore au moins une pointe de paranoïa persistante et des démangeaisons fantômes. Chaque fois que je vois une particule dans les cheveux de mes enfants, je dis « Laisse-moi regarder ta tête », raconte Michel Mervis, mère de deux enfants dont la famille a été aux prises aux poux à de nombreuses reprises, dont deux fois cet été. Elle prévoit peigner régulièrement les cheveux de ses enfants d'ici à la rentrée scolaire ou peut-être d'ici à leur adolescence. Ils finiront bien par passer l'âge, non? Nous triomphons peut-être dans nos batailles individuelles contre les poux, mais la guerre elle-même fait rage depuis l'aube de l'humanité et nous ne sommes pas en train de la gagner. Nos ancêtres pré-hominidés se grattaient la tête de la même manière que nous. Des lentes ont été retrouvées collées aux cheveux pétrifiés d'anciennes momies en Égypte et en Amérique du Sud. Il y a environ 3700 ans, une âme désespérée dans ce qui est aujourd'hui Israël a gravé un appel intemporel dans l'ivoire d'un petit peigne, mis au jour par des archéologues en 2016. Que cette défense extirpe les poux des cheveux et de la barbe. Il s'agit à ce jour de la première phrase humaine connue écrite dans un alphabet. Je pense que la dernière phrase humaine portera également sur les poux, a déclaré une amie tourmentée qui a combattu les poux une demi-douzaine de fois lorsque je lui ai fait part de ce fait. Les poux étaient là quand Hannibal et son armée ont traversé les Alpes. Ils étaient là lorsque les deux guerres mondiales ont eu lieu. Nous sommes en 2024 et nous avons des véhicules sur Mars, l'intelligence artificielle et, toujours, des poux. Nous ne pouvons pas changer le fait qu'ils existent. Devrions-nous changer la façon dont nous les percevons? Nancy Pifond en est convaincue. J'ai développé un profond respect pour les poux en tant que créatures qui ont perfectionné leur capacité à continuer d'exister, dit celle qui a cofondé This Happens, un service mobile d'élimination des poux basé dans la région de Washington, après que sa sœur jumelle et ses enfants ont eu affaire aux poux en 2008. D'une certaine façon, je considère les poux comme un petit cadeau offert à une famille pour lui rappeler à quel point la vie normale et quotidienne est précieuse, car c'est tout ce que l'on veut retrouver après avoir eu des poux. C'est ce que pense Megan Gray, dont l'enfant de maternelle a ramené des poux à la maison 4 jours avant Noël l'année dernière. Elle avait été accaparée par le chaos de la préparation des fêtes, mais tout cela a été instantanément éclipsé par une course paniquée à la pharmacie, suivie d'un shampoing vigoureux, suivie d'une longue soirée passée à peigner les cheveux de son fils pendant qu'il regardait de très nombreux épisodes de Bluey. Elle a réussi. Le lendemain, dit-elle, l'infirmière de l'école n'a pas repéré la moindre lente sur la tête de son fils. Il y avait cependant 7 poux adultes dans ses cheveux à elle. En fin de compte, cela m'a rappelé que toutes les choses qui vous inquiètent sont les problèmes de demain, explique Megan Gray. Je m'étais beaucoup inquiété pour Noël, et tout d'un coup, cela a eu moins d'importance parce que je devais simplement m'occuper de ce qui se trouvait devant moi. D'une certaine manière, c'était un cadeau. Elle rit. Un cadeau de la pleine conscience et d'attention au moment présent. Ou peut-être un cadeau de perspective. Remerciez le ciel que ce ne soit pas des punaises. Vous écoutez Les poux gagneront toujours, un texte de Caitlin Gibson du Washington Post paru le 13 août 2024 dans Le Devoir. Peut-être devrions-nous considérer les poux de cette façon, comme ce qu'ils ne sont pas. Ce ne sont pas des punaises, ni des tiques, ni des puces. Ils ne volent pas, ne sautent pas, ne peuvent pas survivre longtemps en dehors d'une tête humaine et ne transmettent pas de maladies. C'est une information sur laquelle Nancy Pifond insiste auprès de ses clients. Elle veut qu'ils en sachent plus sur les poux et qu'ils se sentent capables de s'en débarrasser. Elle ne veut pas que les parents se sentent effrayés ou honteux lorsqu'ils trouvent des insectes ou des lentes sur la tête de leurs enfants. Lorsque les poux viennent frapper à la porte et que nous ne les comprenons pas, explique Mme Pifond, nous les rendons plus redoutables qu'ils ne le sont en réalité. Nous avons tendance à considérer les poux comme un problème infantile, mais les adultes en sont souvent victimes. Demandez à Katrina Soutard, qui, la veille d'aller à l'hôpital pour accoucher en 2017, a serré deux fois une amie dans ses bras lors d'une fête tête collée. Elle apprendrait, beaucoup plus tard, que son amie avait des poux sans le savoir. Cadeau de son jeune enfant. Une semaine environ après avoir donné naissance à mon bébé, mon cuir chevelu a commencé à me démanger, raconte Katrina Soutard. Pendant des semaines, elle a pensé que ces démangeaisons n'étaient qu'un symptôme postpartum parmi d'autres. À un moment donné, elle est entrée dans un magasin de cosmétiques et a mentionné « démangeaisons du cuir chevelu postpartum » à une vendeuse, qui lui a dit que c'était effectivement une réalité. Ce n'est pas le cas. Il lui a vendu un traitement à l'huile chaude. Quelques semaines plus tard, Catherine Soutard s'est grattée la tête et a arraché un insecte vivant de ses cheveux. « Une amie très chère venait d'avoir des poux avec ses enfants, raconte-t-elle, et elle est venue lui peigner les cheveux pendant des heures, tandis qu'elle allaitait son bébé. En y repensant, elle est plutôt émue. « Il y a quelque chose de très intime là-dedans, » dit-elle. « Ça, c'est une véritable amie. » Aujourd'hui, lorsque Katrina Soutard pense aux poux, elle se souvient d'un sentiment de connexion avec son amie, mais aussi avec l'ordre naturel des choses, auquel même l'homme moderne ne peut échapper. Je pense que nous avons l'impression d'être déconnectés ou différents des autres animaux, comme si nous étions en quelque sorte en dehors de l'environnement. Mais lorsque d'autres animaux vivent sur nous, nous nous disons « Oh, je suppose que nous sommes tous dans le même bateau. » Marina Assunce, généticienne spécialisée en évolution au département américain de l'agriculture à Gainesville, en Floride, s'émerveille de la longue histoire de cette relation particulière. Les poux nous ont accompagnés tout au long de notre évolution, et c'est incroyable. Elle a commencé à étudier l'ADN des poux en 2010, comprenant que le corps minuscule de ces parasites contient des informations vitales sur l'histoire de leurs hôtes. En analysant la variation génétique de plus de 270 spécimens de poux, elle et ses collègues ont identifié deux groupes génétiques distincts, et ont découvert que certains poux des Amériques avaient des composantes génétiques des deux groupes, ce qui pourrait être le résultat de croisements. Les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'un groupe de poux avait accompagné les premiers humains dans leur traversée de l'Amérique du Nord il y a entre 15 000 et 35 000 ans, et que l'autre n'était arrivé qu'il y a quelques centaines d'années, sur les têtes des colonisateurs européens. « Les implications sont importantes », explique Marina Assunce. « Les poux offrent un moyen intéressant de comprendre où et quand nos ancêtres ont migré, comment ils vivaient et avec qui ils interagissaient. Les découvertes potentielles sont passionnantes », dit-elle. « Si nous étudions d'autres poux provenant d'autres régions du monde, nos données pourront être combinées et nous pourrons répondre à encore plus de questions sur l'évolution humaine. L'époux nous raconte encore des histoires sur les endroits où nous sommes allés, qu'il s'agisse du pont terrestre de Bering, il y a des dizaines de milliers d'années, ou d'un voyage de camping avec les scouts le week-end dernier. Il nous montre qui nous sommes vraiment, des personnes épuisées, débordées, qui cherchent désespérément à reprendre un minimum de contrôle sur leur vie quotidienne. L'époux nous révèle notre place dans le règne animal, parmi la myriade de créatures qui ont elles aussi leur propre souche de compagnons parasites. Il nous rappelle qu'il faut apprécier les personnes qui nous aiment suffisamment ou qui sont suffisamment bien rémunérées pour nous aider à accomplir les tâches les plus grossières. Pourtant, je dois poser la question à Marina Asunze. En serons-nous un jour débarrassés? Sur l'écran de l'appel vidéo, elle marque une pause et sourit à moitié, réfléchissant à une réponse nuancée. Elle a eu des poux une fois dans son enfance, en Argentine. Sa sœur en avait presque chaque année et cela rendait leur mère folle. Sa propre fille n'a jamais ramené de poux à la maison. Elle a été chanceuse. Personne ne souhaite avoir des poux dans sa propre maison, mais pour l'ensemble de l'humanité, il n'y a aucun signe de disparition prochaine des poux. Ils sont embêtants, dit Marina Asunze. Puis elle sourit franchement. Mais en tant que chercheuse, je ne veux pas qu'ils disparaissent. C'était « Les poux gagneront toujours », un texte de Caitlin Gibson du Washington Post, paru le 13 août 2024 dans Le Devoir.
Une compagnie responsable de la poussière rouge à Limoilou veut agrandir ses activités. Un texte d'Antoine Morin-Racine, paru le 29 juillet 2024 dans Pivot. QSL, une importante compagnie de commerce maritime du port de Québec, envisage la construction d'un nouveau terminal de conteneurs. L'entreprise a été trouvée responsable d'avoir contribué à un épisode de poussière de fer dans Limoilou par sa manipulation de minerais en vrac. Des groupes citoyens et au moins une élue municipale inquiets des impacts sur la qualité de l'air et la biodiversité contestent le projet. La compagnie de transbordement QSL a récemment fait connaître ses plans pour un réaménagement de certains de ses terrains au port de Québec. Elle souhaite construire un nouveau terminal de fret qui porterait jusqu'à 250 000 par année le nombre de conteneurs qui transitent par la capitale. Cet agrandissement n'est pas sans rappeler le projet Laurentia que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, AEIC, avait empêché de voir le jour en 2020 parce qu'il empiétait sur un site de reproduction de barres rayées. En février 2019, la compagnie QSL, alors appelée Arrimage Québec, était condamnée à verser une compensation allant jusqu'à 200 $ à des habitants-habitantes de la basse ville de Québec. Ces derniers avaient été touchés en 2012 par un épisode de poussière de fer qui s'était répandu sur le secteur et qui provenait des installations portuaires d'Arrimage Québec. Portant maintenant le nom de QSL, la compagnie est l'une des plus importantes entreprises de logistique maritime sur le Saint-Laurent, avec des filiales jusqu'au Texas. Dès le dévoilement du projet par QSL, le 5 juillet 2024, la conseillère municipale de Limoilou, Jackie Smith, s'est exprimée contre le projet. Elle trouve décevant que le maire Bruno Marchand appuie un projet si similaire à Laurentia. Si le port est incapable de faire respecter la qualité de l'air, pourquoi devrions-nous le laisser s'agrandir? A-t-elle aussi dit à Pivot, un milieu déjà saturé de polluants. Bien qu'on parle ici d'un terminal de conteneurs plutôt que de minerais en vrac, la qualité de l'air du quartier se verrait vraisemblablement encore affectée par le projet. Le diesel que consomment les bateaux, les trains et les camions responsables de déplacer ces 250 000 conteneurs émet des particules fines, PM2.5, nocives pour la santé. Celles-ci sont déjà présentes en quantité assez importante en basse ville pour que la santé publique du CIUS de la capitale nationale les considère comme contribuant à une part significative des problèmes de santé cardiovasculaire et respiratoire de la région. La question des émissions de diesel était d'ailleurs l'une des raisons principales du refus du projet Laurentia par l'AEIC. Ça vient s'additionner à un milieu qui est déjà saturé de polluants, s'inquiète Patrick Albert, membre de la table citoyenne Littoral Est, un collectif de citoyens et citoyennes qui milite pour un accès au fleuve pour les habitants et habitantes des quartiers autour du port. Joint par courriel, le Port de Québec et QSL ont mentionné qu'il était impossible de commenter l'impact potentiel du projet pour le moment et que des études étaient en cours. Des dangers pour la vie marine? Un projet de la sorte et l'augmentation du trafic maritime qui en découlerait inquiètent les scientifiques et les organismes de conservation depuis plusieurs années. Déjà, au moins 6 000 navires circulent sur le Saint-Laurent chaque année et sont responsables du dérangement de la biodiversité marine, de l'érosion des berges et parfois même de collisions avec de grands cétacés. Marie Cadieux, coordonnatrice en conservation maritime pour SNAP Québec, souligne notamment que le seuil maximum de trafic maritime pour la faune et la flore du Saint-Laurent est encore inconnu et qu'il faudrait attendre des études à ce sujet avant de prévoir de nouveaux développements portuaires. Malgré les réactions depuis son dévoilement, le projet reste encore à l'étape de proposition et QSL se dit ouvert à écouter toute préoccupation concernant ce projet de la part de la population. C'était une compagnie responsable de la poussière rouge à Limoilou veut agrandir ses activités. Un texte d'Antoine Morin-Racine paru le 29 juillet 2024 dans Pivot.